Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un appel à la grève à l'école. Jeudi prochain, pagaille indescriptible à cause du Covid, sentiment d'abandon. Le premier syndicat dans le primaire appelle les autres à se joindre au mouvement. Le SEUNSA suit justement ce mouvement. Combien de temps faut-il tenir encore face à Omicron? Le pic attendu dans une dizaine de jours, c'est l'évaluation du professeur Fischer à la tête du conseil d'orientation pour le vaccin. Malade plus télétravail, les restaurateurs passe un très mauvais mois de janvier. Quant à Emmanuel Macron, à propos de sa volonté d'emmerder les non-vaccinés...
On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Ce que je dis, c'est qu'être citoyen, c'est aussi accepter les devoirs.
Le président, côté de la chef de la Commission européenne ce matin, ses adversaires en campagne, Marine Le Pen à Béziers, Éric Zemmour dans l'Eure-et-Loir. À gauche, 12 militants, dont Pierre Larouturou, qui vise la présidentielle, entame une grève de la faim pour exhorter les candidats à l'unité. Nous vous parlerons aussi de cette appli sur vos téléphones qui vous permet de savoir de quel candidat vous êtes le plus proche. Dans l'actualité encore, au Kazakhstan, on tire désormais sans sommation et pour tuer. Ce sont les mots du président. La répression a fait des dizaines de morts et 3000 prisonniers, chiffre des autorités. Fallait-il arrêter le Dakar? Le chef de la diplomatie s'interroge face aux soupçons d'attentat contre un pilote français. Et puis vous rendez-vous dans le 13-14, 13h30, plaisir de recevoir l'écrivain et scénariste Tonino Benacquista dans Porca Miseria chez Gallimard. Il raconte son enfance dans une famille d'immigrés italiens. C'est aussi drôle que touchant. 01 45 24 7000 pour dialoguer avec lui. Le vif de l'histoire quand Éric Roussel, biographe de Giscard, De Gaulle et Pompidou, vide ses carnets de notes. Et dans C'est une chanson, Ibrahim Malouf nous fait écouter du Alicia Keys. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Un nuage de plus sur le début du second semestre. Le SNUIPP FSU, premier syndicat d'enseignants dans le primaire, appelle à une journée de grève jeudi prochain dans les écoles, mais il propose à toutes les organisations syndicales de l'éducation de s'y joindre. Guylaine David est la porte-parole du SNUIPP FSU.
On n'a pas de réponse à nos questions, on voit le désordre qui s'accumule tous les jours dans nos écoles hein, et on a repris que depuis quelques jours, on a une gestion des cas contacts des élèves qui ne sont pas vaccinés, qui n'est pas tenable. Forcément, on va avoir des trous dans la raquette et on va accueillir des enfants potentiellement positifs dans nos classes. On a aussi des personnels malades et pas remplacés. On ne fait pas notre travail correctement, on ne peut pas le faire correctement. Il y a des classes à moitié vides, on n'arrive plus à assurer nos missions d'enseignement et c'est aussi ça qui nous pèse en ce moment. On a la crainte que les bras lâchent et que tout s'écroule. Donc on est dans une position du ministre qui est dans le déni de la réalité du terrain. Cette situation, elle est ingérable et on a besoin d'avoir des réponses claires du ministère et de montrer quelle est la colère des enseignants sur le terrain.
Propos recueillis par Kathleen Comte, le SEUNSA, syndicat du primaire et du secondaire, appelle lui aussi à faire grève jeudi prochain. Il y a plus de 9000 classes fermées en France, 9202, c'est le chiffre le plus élevé depuis le printemps dernier. 47 000 élèves positifs depuis lundi, 8% d'adultes absents, mais le vivier d'enseignants remplaçants permet de faire face, assure le ministre de l'Éducation. Cette semaine de rentrée très particulière, les infirmières scolaires l'ont évidemment vécu de très près. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Vous avez recueilli des témoignages, Laurent.
Oui, une école désorganisée qui croule sous les absences, les retours, un protocole impossible à gérer, explique Sandy Caria. Elle est infirmière scolaire dans un collège de l'Hérault qui compte 800 collégiens, une centaine d'absents par jour depuis lundi.
Depuis lundi, on a énormément d'absents. On a à peu près une centaine d'élèves absents par jour au collège. Et c'est difficile justement d'avoir un contact avec toutes les familles. Surtout vérifier les élèves qui reviennent, les retours des tests à J2 et à J4. Et comment on vérifie nous derrière, en plus des consultations bien sûr à côté. Hein, puisque moi au quotidien, c'est minimum 50 consultations infirmières pour d'autres motifs. Quoi. Donc le Covid plus les consultations, journée non-stop.
On ne compte que 7700 infirmières scolaires pour 6 millions de collégiens et de lycéens. Le système est en bout de course, souligne Safia Guerrechi. Elle est secrétaire générale du SNIC FSU qui regroupe les infirmières scolaires.
On est à peine rentrés que les personnels sont déjà tous épuisés, notamment les infirmières de l'éducation nationale. Elles n'arrivent pas. Il y a plus de 60 000 sites scolaires, donc on est 7700. Vous imaginez bien que depuis le début de la crise, les infirmières sont mises dans l'incapacité d'assurer leur mission. Et on en rajoute à chaque fois, on complexifie les protocoles, on les modifie. Donc tout ça, ça entraîne des tensions et des pressions sur le personnel infirmier, des tensions entre les infirmières et les familles. On navigue à vue en fait. on n'a aucune visibilité, et on est submergé. On ne peut plus assumer la sécurité de l'espace scolaire à cette rentrée.
Il faudrait 23 000 infirmières scolaires pour tenir le choc de cette épidémie, estime le syndicat.
Le protocole sanitaire est quelque peu allégé à l'école. Un enfant positif dans la classe, la série de tests est enclenchée. Mais si dans l'intervalle, un nouveau cas positif est signalé, on ne relance pas le cycle à J+2 et J+4 pour les autres. Autre allègement cette fois pour tout le monde, au-delà de l'éducation, un test PCR n'est plus obligatoire pour confirmer un test antigénique positif. Le sens de ces changements, eh bien, c'est de limiter le nombre de tests. On approche sans doute des limites de la capacité française. 2 millions de tests réalisés par jour en ce moment. 261 000 cas positifs supplémentaires annoncés hier. À quand le pic de cette vague de Covid version Omicron ? On s'en approche, répond le président du comité d'orientation vaccinale, le professeur Fischer, pic envisagé selon lui dans une dizaine de jours. Et sur cette nouvelle vague, bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Les derniers chiffres avec vous, Santé publique France faisait le point ce matin.
Actuellement, 2% de la population est infectée par le virus et ce taux d'incidence continue de monter partout avec un bond de 129% la dernière semaine de 2021. Et si la classe d'âge la plus touchée est celle des 20-29 ans, aucune n'est épargnée. Même la légère baisse observée chez les 0-9 est une conséquence des vacances scolaires, souligne Santé publique France. Chez les personnes de plus de 60 ans, bien vaccinées, le nombre de personnes touchées a triplé à la fin de l'année dernière, ce qui constitue une inquiétude, car de façon mathématique, certaines de ces personnes devront être hospitalisées. Si le nombre de cas en soins critiques est stable depuis 3 semaines, cela pourrait donc ne pas durer. Ce qui se confirme dans ce nouveau point de situation, c'est le remplacement du variant Delta par Omicron, désormais majoritaire dans toutes les régions, outre-mer compris. Omicron qui compense sa moindre sévérité par sa grande contagiosité. Sa répartition sur le territoire métropolitain n'est pas uniforme. Il est très présent dans le nord-ouest, c'est-à-dire les Hauts-de-France, la Normandie ou encore l'Île-de-France, et un peu moins dans le sud-est, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 84 contre 67%. À noter qu'un seul cas de double infection grippe-Covid a été noté à ce jour, mais peut-être pas le dernier, prévient Santé publique France, car le virus de la grippe est sévère cette année.
Dans la série Nouvelles règles pour la vaccination des enfants 5-11 ans, il faut désormais l'accord des deux parents. Celui d'un seul était jusque-là suffisant. Selon un sondage coordonné par l'INSERM, 2/3 des parents d'enfants de 5 à 11 ans sont défavorables à leur vaccination. Sondage effectué avant Noël, avant que la Haute Autorité de Santé donne son feu vert. Parmi les conséquences de cette nouvelle vague de Covid, il y a un mois de janvier très difficile pour les restaurateurs, touchés à la fois par l'épidémie et par le télétravail, redevenu obligatoire 3-4 jours par semaine. Exemple à Rouen, quartier Saint-Sever, beaucoup d'absents dans la cité administrative à proximité. Reportage Charlotte Coutard, France Bleu Normandie.
Depuis le début de la semaine, la baisse de la fréquentation du restaurant La Rotonde est, selon le patron,
vertigineuse.
Robert est le propriétaire depuis 37 ans.
Parce que nous, on est dans un quartier où on est entouré de bureaux. Et effectivement, là, depuis lundi, tous les gens qui sont en télétravail, qui sont nos clients, donc ne viennent plus. Alors le midi, on est quasiment plein tous les jours, et là, on est loin de là. Même pas la moitié pour le moment.
La salle du Clémenceau est aussi bien vide. Les habitués du restaurant de Dominique restent chez eux.
On le voit le matin, le midi, il n'y a plus personne pour le petit café. Mais là, on le voit même quand ça descend du métro, il n'y a pas de vague de gens. Ils n'ont pas menti ce matin, j'ai entendu un moins 30, j'ai dit on va y aller, si c'est pas un moins 50. Parce qu'il y a des petites affaires comme la mienne, c'est un peu plus raide encore.
La fréquentation de la brasserie Le Palais de la Bière a baissé de 35% le midi, moins 50% pour le verre entre collègues après le travail. Les salariés s'ennuient, raconte Francis, le patron.
Sur le début de la semaine, nous avons assez peu travaillé. On va essayer de mettre quelques personnes en vacances, s'ils veulent bien, mais bon, on ne peut pas obliger les personnes à partir en vacances. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a évoqué le chômage partiel.
Ces restaurateurs espèrent donc toucher des aides à la hauteur de leurs pertes.
Et les conséquences se font aussi sentir dans le monde du sport. 3 matchs de Ligue 1 de football reportés par exemple ce week-end. Angers-Saint-Etienne, Lille-Lorient et Montpellier 3. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a été interrogé ce matin sur la tempête politique de la semaine. La petite phrase qu'il a prononcée dans une interview au journal Le Parisien, emmerder les non-vaccinés, sa réponse.
On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger de la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et je ne peux pas laisser prospérer dans notre pays des débats qui consisteraient à dire « ne les soignons pas par ces choix ». Non. Et je l'ai dit aussi très clairement. Et donc, Ce que je dis, c'est qu'être citoyen, c'est aussi accepter les devoirs qui vont avec cette citoyenneté. Et donc, quand on est citoyen, on doit accepter de remplir son devoir.
Emmanuel Macron avec la présidente de la Commission européenne ce matin à l'Élysée, car de son côté, il n'est pas encore candidat, mais il en a envie, dit-il. Les sorties médiatiques dans les semaines à venir se partageront entre les mots du président, du quasi-candidat, et du président du Conseil de l'Union européenne. Comme à chaque semestre, quand un des 27 prend ce rôle, la Commission de Bruxelles en grand appareil se déplace dans le pays en question, la France donc. Il y a 27 commissaires, comme autant de membres de l'Union en comptant la présidente. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Bruxelles se déplace à Paris, donc notre correspondante aussi. Bienvenue en studio. Ursula von der Leyen était reçue donc ce matin à l'Élysée, après avoir participé avec le président français à une cérémonie d'hommage à deux grandes figures européennes au Panthéon, Simone Veil et Jean Monnet, l'un des pères de l'Europe.
Oui, deux piliers de la construction européenne dont les immenses portraits avaient été installés sur la façade du Panthéon ce matin. Les deux dirigeants se sont recueillis devant leur tombeau en présence des deux fils de Simone Veil et du petit-fils de Jean Monnet. Dans la crypte, ils ont longuement échangé tous les cinq sur l'engagement européen de leur père et grand-père. Le président français a ensuite reçu la présidente de la Commission européenne à l'Élysée. Premier entretien de travail de l'année sur les sujets prioritaires pour les 6 prochains mois. Questions migratoires, SMIC européen, transition écologique et numérique. Le tout dans un contexte épidémiologique, économique et diplomatique difficile, a insisté Ursula von der Leyen, malgré tout optimiste.
Nous avons des grands chantiers devant nous. Je me réjouis donc qu'un pays avec le poids politique et l'expérience de la France assume la présidence du Conseil dans un moment si délicat. Car la voix de la France porte haut et fort et la France a l'Europe à cœur.
Le tout dans, pardonnez-moi, Ursula von der Leyen. Donc, les deux dirigeants ont ensuite répondu aux questions de la presse sur la pandémie. L'occasion, on l'a entendu tout à l'heure, pour le président français de s'expliquer sur ses déclarations controversées. Et pour la présidente, sans commentaire sur la forme, de le soutenir. La liberté est toujours combinée avec la responsabilité et les gouvernements doivent protéger, a-t-elle déclaré.
Entre France et Grande-Bretagne, malgré le Brexit, la solidarité en temps de Covid joue. 200 militaires, médecins de l'armée et personnel auxiliaire vont être déployés dans les hôpitaux de Londres pour pallier l'absence de personnel covidé. La campagne présidentielle a donc repris tambour battant cette semaine. Après les mots qui claquent, emmerdés, mais aussi Karcher dans la voix de Valérie Pécresse, une série d'événements et déplacements marque la fin de semaine à 93 jours du premier tour. À droite et l'extrême droite, c'est un match à trois, Pécresse-Zemmour-Le Pen. La leader du Rassemblement National est aujourd'hui à Béziers, dont le maire Robert Ménard est de ceux qui tentent de faire le pont entre elle et Éric Zemmour. Mais là, c'est d'Emmanuel Macron qu'il a été question. Envoyé spécial de France Inter, Anne Souhaitement.
Ah, c'est quel niveau ?
C'est une école maternelle et élémentaire.
C'est sur le chantier de l'école Samuel Paty, initié par le maire de Béziers, Robert Ménard, que Marine Le Pen entame sa tournée de rentrée. Objectif, parler de fond.
L'aménagement du territoire est pour moi quelque chose de fondamental.
Ne pas se laisser enfermer dans la crise sanitaire.
Il y a derrière des problèmes auxquels il faut apporter des réponses. Et ces problèmes n'ont pas disparu. Quand la crise sanitaire sera passée, eh ben il restera le problème du chômage, il restera le problème de l'aménagement du territoire, il restera le problème de l'insécurité, il restera le problème de l'anarchie migratoire, le problème du pouvoir d'achat.
Marine Le Pen, offensive contre le chef de l'État.
Est-ce qu'Emmanuel Macron se sert de la crise sanitaire pour entrer en campagne ? La réponse est oui. Incontestablement oui, et je pense que l'article du Parisien le démontre, car le ton qu'il prend n'étant pas du tout un ton de président, on ne peut qu'en conclure que c'est un ton de candidat.
Mais aux côtés de Robert Ménard, ami personnel d'Éric Zemmour, Marine Le Pen en profite aussi pour marquer sa différence avec le polémiste candidat, dont elle souligne en filigrane la vision rabougrie de la France.
Il faut se projeter, avec joie, avec bonheur, avec enthousiasme, il faut recréer de l'enthousiasme.
Rien de tel qu'une tournée en terrain ami pour entamer l'année.
Bonne année Marine.
Éric Zemmour lui essaye de corriger son image d'intellectuel urbain. Il est dans l'Eure-et-Loire aujourd'hui, réunion publique à Châteaudun ce soir. À gauche, Christiane Taubira a fait un petit pas supplémentaire vers une candidature hier. Elle y réfléchit très sérieusement, répond samedi prochain au plus tard. Elle est prête à prendre part à la primaire populaire que défendent les militants, Anne Hidalgo aussi, mais pas Fabien Roussel, ni Jean-Luc Mélenchon, pas non plus Yannick Jadot. Cette primaire populaire est souhaitée par 300 000 personnes qui ont signé en sa faveur, et 12 militants entament aujourd'hui une grève de la faim pour exhorter les candidats de gauche à y participer. Parmi les 12, il y a Pierre Larouturoux, l'homme qui plaide pour la semaine de travail de 4 jours, lui-même candidat à la présidentielle. Et puis 7 autres se présentent comme des jeunes de la génération climat. Antoine Gignot, ils sont installés place de la République.
Ce sont tous des militants pour le climat. Moyenne d'âge, 25 ans, Pierre Monnier, encarté à Europe Écologie Les Verts, soutient Yannick Jadot, mais veut absolument faire émerger une candidature unique à gauche pour la présidentielle. Question, dit-il, d'urgence face au réchauffement de la planète.
On ne peut pas défendre le climat et ne pas gagner cette élection. C'est une obligation. Si on loupe cette échéance, on arrive en 2027, on est foutu. Nous, on s'organise dès maintenant parce qu'on veut faire campagne. C'est l'occasion de parler du programme de Yannick. Et puis ensuite, on va créer une dynamique d'espoir. On va rassembler les forces qui ont envie d'agir.
Car pour l'instant, malgré les appels répétés d'Anne Hidalgo et Christiane Taubira, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Yannick Jadot, ni Fabien Roussel ne veulent de cette primaire populaire. Avec cette grève de la faim, c'est eux que Pierre Larouturou veut interpeller.
Quel est leur objectif? Être le leader de l'opposition? Le chef du cimetière? Moi, je suis un bon copain de Lilian Thuram, j'adore Mbappé, mais Thuram et Mbappé sont des génies, mais ils n'ont jamais cru qu'ils pouvaient gagner un match tout seuls. Donc moi, à la place de Jean-Luc Mélenchon ou de Yannick Jadot, je préférerais 3000 fois être dans une équipe qui peut gagner et faire bouger les choses, plutôt que d'être le leader de l'opposition.
Installés sur la place de la République, les grévistes de la faim attendent d'être rejoints par d'autres militants. Ils ont loué un appartement à quelques centaines de mètres pour se mettre à l'abri pendant la nuit et faire durer leur mouvement.
Et cette campagne électorale, la rédaction de France Inter la couvre, mais aussi celle de franceinter.fr et deux éclairages en cette fin de semaine sur notre site internet. D'abord, le baromètre de la campagne sur les réseaux sociaux en partenariat avec la plateforme de veille des réseaux Visibrain. Première tendance pour décembre, c'est Éric Zemmour qui provoque le plus d'activité sur les réseaux et de loin. Beaucoup de publications, likes ou abonnés nouveaux pour Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon aussi, ce qui n'est pas forcément signe d'adhésion à leur discours. Et puis la campagne sur internet, c'est aussi une appli qui vient de se lancer pour les téléphones à destination des jeunes notamment pour tenter d'intéresser à la présidentielle ceux qu'elle laisse indifférents. Elle s'appelle Élise, E-L-Y-Z-E. Lancée dimanche par des bénévoles et étudiants sans appartenance partisane, elle en est déjà à 100 000 téléchargements. C'est un peu le Tinder de la politique. 500 propositions, vous êtes pour ou contre. Vous n'êtes pas obligé d'épuiser les 500. À la fin de votre sélection, on vous dit de quel candidat vous êtes le plus proche. Grégoire Cascara est l'un des initiateurs.
C'est très simple, vous arrivez sur l'application, vous swipez les propositions des candidats. Ça veut tout simplement dire glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, selon que vous êtes pour ou contre. Et vous pouvez même glisser le doigt vers le bas si vous ne voulez pas vous prononcer pour une proposition. En fait, la finalité, c'est d'une part de permettre à des jeunes qui ne suivent pas forcément cette campagne de très près de découvrir les programmes des différents candidats, d'autant plus que chaque proposition est associée à un « en savoir plus » qui permet de donner des éléments de contexte sur la proposition en question. Et puis oui, l'objectif, in fine, c'est d'aider des jeunes qui ont du mal à se situer dans le champ partisan, à mieux se repérer, à mieux comprendre quelles sont les positions principales, les propositions principales des différents candidats. Et à titre indicatif, un classement est généré avec un niveau de compatibilité en pourcentage qui vous donne votre classement du 1er au 15e des candidats recensés sur l'application. Mais évidemment, plus vous continuez à swiper, plus votre classement sera précis.
Et les propositions sur lesquelles vous prononcez vont augmenter au fur et à mesure de l'annonce des programmes des candidats. Vous trouverez plus de détails grâce à Noémie Lair sur franceinter.fr. En bref, l'un des grands points faibles de l'économie française s'aggrave. Le déficit commercial de la France s'est encore creusé en novembre, 9 milliards d'euros.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
C'est une crise qui concentre deux préoccupations majeures de l'année 2022, la hausse du prix de l'énergie et l'attitude plus ou moins guerrière de la Russie. Au Kazakhstan, le plus grand pays d'Asie centrale, cinq fois la France, au sud de la Russie, au nord-ouest de la Chine, on en est à cinq jours de contestation. Le mouvement a éclaté dimanche face à la hausse des prix du gaz. Il est très violemment réprimé avec l'aide des soldats de Vladimir Poutine. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Un nouveau cran a été franchi ce matin, Thibault.
Tirer pour tuer et sans sommation. Le message est clair pour un président, Kassym Jomar Tokayev, qui évoque dans ses dernières déclarations 20 000 bandits dans la principale ville du pays, Almaty, des terroristes qui, selon lui, doivent être éliminés. Et derrière le président, eh bien, c'est tout l'appareil d'État qui se met au diapason. Le porte-parole de la police parle, par exemple, de manifestants liquidés. Ils seraient 26 selon le ministère de l'Intérieur. Et nous n'avons aucune idée du sort réservé aux 3000 détenus depuis les nouvelles manifestations d'hier soir. Pour vous donner une idée, Bruno, de l'ambiance à Almaty, écoutez le son des tirs d'armes automatiques enregistrés cette nuit par un correspondant de la BBC. une des rares sources d'informations fiables et vérifiées puisqu'Internet est coupé. Les Kazakhstanais n'ont accès qu'à la télévision d'État et les rumeurs vont bon train. Ce que l'on sait, c'est que la mairie d'Almaty et la résidence présidentielle ont été incendiées, que des manifestations sont organisées dans d'autres villes et que selon les agences de presse russes, 2500 soldats envoyés hier matin par Moscou dans le cadre d'une alliance régionale avec le Kazakhstan sont sur place pour une opération qualifiée de maintien de la paix.
Et ce matin, le président du Kazakhstan a remercié tout spécialement Vladimir Poutine pour son aide. Le pays, le Kazakhstan, était naguère membre de l'Union soviétique et ce mouvement de contestation fait écho à ceux qui ont touché ces dernières années, Géorgie, Arménie, Biélorussie. À chaque fois, les dirigeants au plan militaire restent dépendants de Moscou, qui en profite pour consolider son influence. Écoutez l'analyse d'Emmanuel Dreyfus, spécialiste de la Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire.
Le lien qui unissait les dirigeants autoritaires et corrompus à leur population, que ce soit en Biélorussie, que ce soit au Kazakhstan, que ce soit en Arménie pendant un certain temps, il est de moins en moins ténu. Et du coup, le fait que ce lien s'amenuise avec le temps, ça permet ce genre de contestation. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en dépit de ces liens qui s'amenuisent, de cet éloignement progressif vis-à-vis de l'ancienne puissance tutélaire russe, bah, dès que le régime se sent menacé, il fait appel à qui ? Il fait appel à Moscou. Et une fois que des soldats russes sont déployés quelque part, on ne sait pas trop quand ils vont partir. Ça a été le cas en Géorgie, c'est le cas en Arménie. Officiellement pour protéger les emprises stratégiques et les sites gouvernementaux. Mais une fois qu'ils sont là, on ne sait pas combien de temps, d'une part, ils vont rester. Et d'autre part, ce que va demander Moscou en contrepartie de ce soutien au régime kazakhstanais.
Un propos recueilli par Olivier Poujade. Y a-t-il eu un attentat sur le Dakar qui se déroule en Arabie Saoudite? Et les organisateurs auraient-ils dû l'arrêter? Il y a déjà eu des menaces terroristes contre le Dakar. Il y avait par ailleurs eu une attaque contre des intérêts français à Jeddah le 11 novembre 2020. En tout cas, deux semaines après l'explosion de la voiture qui a très grièvement blessé le pilote français. Philippe Boutron à Jeddah, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a fixé la position française ce matin.
Nous avons dit et aux organisateurs et aux responsables saoudiens qu'il fallait être très transparent sur ce qui venait de se passer parce qu'il y avait des hypothèses selon lesquelles ça pouvait être un acte terroriste. Donc le parquet national antiterroriste a été saisi et nous sommes aujourd'hui devant cette situation. Il y a peut-être eu un attentat terroriste contre le Dakar. Nous avons pensé que peut-être que ça valait le coup de renoncer à cette manifestation sportive. Les organisateurs ont décidé de maintenir, mais en tout cas, la question reste posée.
Jean-Yves Le Drian sur BFM ce matin, il appelle les organisateurs, faute d'interruption de la course, à au moins mettre des dispositifs de protection suffisants et renforcés. Le Dakar doit se dérouler jusqu'au 14 janvier. À propos de terrorisme, faut-il rappeler que ce 7 janvier marque le 7e anniversaire de l'attaque contre Charlie Hebdo. Cérémonie d'hommage ce matin devant les locaux de Charlie Hebdo et devant l'hypercachère en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais aussi du préfet de police Didier Lallement et de Valérie Pécresse, à la fois candidate à la présidentielle et présidente de la région Île-de-France. Il y a un an paraissait le livre « La Familia Grande » de Camille Kouchner. Cet ouvrage, dans lequel elle dénonce sans le nommer son beau-père Olivier Duhamel, accusé d'agression sexuelle sur le frère jumeau de l'auteur. La publication avait entraîné à l'époque la démission du politologue qui a reconnu les faits et mis la question de l'inceste à la une du débat public, à tel point qu'une commission indépendante a été créée pour avancer sur ce fléau longtemps tabou. L'affaire au départ de tout ça est prescrite, elle date des années 80, il n'y aura pas de condamnation. Ce n'était pas l'objectif, dit Camille Kouchner, qui était ce matin l'invité de France Inter chez Augustin Trapenard.
J'ai écrit un livre, je suis pas allée chercher la justice, l'affaire était prescrite, ça a été classé sans suite, moi je respecte absolument ça. J'ai pas écrit un livre pour appeler à une condamnation du tout. J'ai écrit un livre parce que je trouve qu'il est légitime que les victimes aient le droit à la parole et le droit à leur humanité et le droit d'écrire, de parler. Appeler à une condamnation, je peux le comprendre. Et vraiment, chacun a son chemin. Moi, c'était pas du tout mon ambition. Mon ambition, c'était de dire, et en plus, moi je suis pas victime directe de tout ça. Donc c'était de décrire le chemin d'un témoin. Qu'est-ce qui ferait que on puisse décrire, je sais pas, l'enterrement de son père, qu'on puisse décrire un avortement, qu'on puisse décrire, et qu'on n'ait pas le droit de dire « moi j'ai été témoin de ça ».
Camille Kouchner avec Augustin Trapenard dans Boomerang ce matin sur France Inter. Vous pouvez réécouter tout l'entretien sur franceinter.fr. Les propos étaient sélectionnés par Ariane Grissel. La Familia Grande avait marqué le début de l'année 2021 en librairie, notamment le livre qui marque le début de l'année 22. C'est celui de Michel Houellebecq, Anéantir. Il sort aujourd'hui, tirage monstrueux de 300 000 exemplaires. La rentrée littéraire de janvier. On en reparle avec notre invité dans 5 minutes, Tonino Benacquista, qui publie Porca Miseria chez Gallimard. Si vous souhaitez dialoguer avec lui, 01 45 24 7000 ou l'appli France Inter, rubrique Réagir. Mais nous parlons musique pour boucler ce journal. Jane Birkin avait dû interrompre sa tournée pour raison de santé. Elle reprend la route. Ses concerts vont l'emmener à Paris, New York, Londres, Istanbul. Le spectacle s'appelle Oh pardon, tu dormais. On retrouve aussi les grands classiques Jane B ou Melody Nelson. Écoutez-la cette semaine à Paris.
Le bonheur, c'est de prendre le train, de prendre Bella, et puis partir avec sa valise, savoir pas où en aller exactement, comme si c'était la dernière fois. C'est une chance, hein, de pouvoir s'échapper comme ça. Il y a pas mal de gens qui aimeraient échapper des choses quotidiennes, ennuyeuses. Solitude aussi. Une énorme solitude quand je suis pas sur la route. On sait pas qui on va rencontrer. Ah, ça, c'est splendide. Je suis prise en main par Étienne Dao, et chaque pas que je prends, chaque mot que je dis entre les chansons a déjà été vu par lui, par un désir de lui de me voir comme j'étais peut-être à l'époque de Jane B. Donc il y a beaucoup de chansons de tout début, et aussi il m'a donné le courage et l'excitation de faire Melody Nelson. Donc je fais 4 chansons de Melody Nelson et c'est le parti du show presque que je préfère. Là je vais travailler ce soir jusqu'au plus soif avec les playbacks qu'on va m'envoyer. Parce que j'avais plus de musique, j'ai pas de tourne-disque, j'y joue jamais mes propres disques. Mais ça me manque pas, sauf que là, ça m'aurait aidé un peu d'avoir entendu ce que les mots.
Propos recueillis par Mathieu Culeron, très présent en cette fin de journal de 13h, puisque nous parlons longuement de musique, nous allons parler du groupe The Weeknd. On se souvient de sa prestation au Super Bowl l'année dernière. The Weeknd de retour avec la sortie ce matin du nouvel album Down FM, le chanteur star qui cette fois a décidé de nous emmener dans les années 80 en créant sa propre radio, Mathieu.
You are now listening to 103.5 Dawn FM.
The Weeknd nous propose de nous brancher avec une certaine ironie sur sa radio intitulée Dawn FM, la FM de l'aube. Une vision nihiliste de la vie qui propose la tendresse comme remède, avec un son New Wave emprunté aux années 80 et Jim Carrey en guise d'animateur.
I will never forget watching my mother.
Dans Thelma Quincy, The Weeknd fait un clin d'œil à Daft Punk en faisant se raconter le roi de la production Quincy Jones, procédé déjà utilisé par les producteurs français avec Giorgio Moroder sur un morceau très similaire à Michael Jackson. Pour son 10e album, le chanteur de 31 ans se voit en vieil homme sur la pochette et convoque ses rappeurs préférés, Lil Wayne, avec qui il avait déjà collaboré sur le titre I'm Good, mais aussi le petit génie Tyler, the Creator, sur ce titre Here We Go Again.
So here we go. This love is strong to me. Some things can change, go wrong with me. We don't know how it's gonna be. Forever is too long.
Entre questionnements amoureux et troubles psychologiques, The Weeknd nous branche sur sa radio des années 80 avec talent, un disque hors du temps et du son du moment, une invitation à vivre plus intensément, entouré d'un casting de stars.
Le nouvel album de The Weeknd, Down FM, écouté et approuvé par Mathieu Culeron. Dans un instant, la météo.
France Inter M
sur N Cité Danse. Rendez-vous incontournable de la danse hip-hop et contemporaine. Voici 30 ans que sur N Cité Danse est en mouvement. Ne manquez pas cette édition anniversaire exceptionnelle. 6 semaines, 9 créations, 17 spectacles et plus de 80 danseurs. Venez partager à Suresnes le meilleur de la danse des cités et un festival qui met en lumière de nouvelles formes de danse. Suresnes Cité Danse, du 7 janvier au 13 février, au Théâtre de Suresnes Jean Villard. Un événement France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Galac.
Bonjour à tous.
Eh bien, le temps, il est perturbé et encore froid dans l'Est.
Oui, seulement 3 à 7 degrés dans l'Est cet après-midi, 7 à 13 en allant vers l'Ouest et 9 à 14 en Méditerranée avec des éclaircies et du vent. On a des éclaircies aussi de l'Aquitaine et de la Vendée jusqu'au nord de la Seine, mais avec un risque d'averse. Le ciel reste chargé des Pyrénées aux régions de l'Est avec des averses, de la neige sur les massifs, quelques averses de neige possibles encore près des frontières du Nord. On a une nouvelle perturbation qui s'invite de la Bretagne à la frontière belge dans l'après-midi. La neige pourra se mêlée à la pluie dans les terres de la Normandie jusqu'au Hauts-de-France. On a beaucoup de vent également sur les côtes, 80 à 100 km à l'heure. Et puis ce soir et cette nuit, les chutes de neige concerneront le Grand Est, parfois marquées d'ailleurs dans la partie nord. On attend jusqu'à 3 à 7 cm, voire 10 sur la Moselle, sur la Meurthe-et-Moselle, qui sont placées en vigilance orange. Donc soyez prudents, mais je suis sûre que les enfants seront contents demain matin.
Elodie Galac, Météo France, merci beaucoup. Il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Comment devient-on un auteur populaire quand vos parents ne parlaient pas français? Comment trouve-t-on sa place quand ils vous ont légué un sentiment d'usurpation? Qu'est-ce qui se joue dans le choix d'un prénom, Tonino ou Jean, Clara ou Yolande? Voilà quelques questions qui traversent Porca Miseria, le dernier livre de Tonino Benacquista, l'auteur de Saga, de L'Outre Mangeur, de Scénario pour Jacques Audiard aussi. Dans ce livre, il raconte l'arrivée de sa famille en France, 54, l'hiver le plus froid du XXe siècle, sa naissance quelques années plus tard, et l'enfance, l'adolescence et au-delà d'un fils de Rital, Mutique, le père, parce qu'il abuse de sa production personnelle tirée d'un raisin chasselas blanc, la mère, parce qu'elle reste sidérée d'avoir quitté sa terre natale. Au fil des pages, on mesure l'importance dans l'enfance d'un gamin né en 61 en banlieue parisienne, de la télévision, de Gottlieb et Goscinny, des passages chez le coiffeur, de Cyrano de Bergerac, du roman noir, bref, de la culture populaire. Aujourd'hui encore, écrit Benacquista, de César, publié chez Gallimard, bardé de prix à tous les étages, sur l'idée de culture, j'envie ceux qui savent séparer le bon grain de l'ivraie. J'en suis toujours incapable. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour vos questions à notre invité du jour. Bonjour Tonino Benacquista.
Bonjour.
Je voudrais qu'on commence par deux scènes marquantes de ce livre. Alors dans la famille, vous êtes le petit dernier, vous êtes né 10 ans après votre sœur Yolande, vous êtes le seul né en France. C'est la scène du médecin. Vos sœurs quittent la maison, c'est vous qui restez seul et qui jouez auprès de votre mère l'interface entre elle et le reste du monde. Et un jour, vous devez aller chez le médecin un peu loin de chez vous. Qu'est-ce qui se passe?
Je m'aperçois qu'en fait, je parle le mieux le français qu'elle.
Ouais.
Quoi. Et à ce moment-là, elle était censée me guider jusque-là. Enfin, voilà, ouais. Une mère accompagne son enfant. Et en fait, elle ne reconnaît pas le nom des rues parce que c'est pas un quartier qu'elle connaît. Elle est perdue et elle n'ose pas demander son chemin. Et puis elle le réduit au nom du médecin.
Ouais.
Voilà, ah, voilà, c'est le docteur un tel. Alors elle dit juste le nom. Et puis on passe pour des bizarres, franchement. Donc à un moment donné, je prends les choses en main. Je dis voilà, je vais essayer de trouver l'adresse par moi-même. Et puis je vais nous ramener à la maison.
Et à propos de main, il y a cette image. Vous sentez sa main à elle se crisper dans la vôtre.
Ouais, c'est comme une passation, quoi.
C'est-à-dire
que voilà, moi, ma main est tenue par celle de ma mère, et puis à un moment donné, c'est moi qui tiens la sienne parce qu'elle est perdue. Elle est plus perdue que moi, en tout cas. Et donc, je me suis aperçu à ce moment-là que, ce sera moi qui les aidera à faire cette interface. Voilà.
De quand date le passage à l'âge adulte? Je sais dater en tout cas le jour où j'ai perdu confiance en ma mère.
Oui, parce qu'à un moment donné, tous les deux étaient se sentaient démunis et voilà, il a fallu être plus responsable. Mais en même temps, comme je suis né en France, comme j'étais le seul d'ailleurs de la famille à être né en France, peut-être que c'était à moi de le faire. Voilà. De les rassurer, je veux dire.
À propos de vos parents et de la langue de vos parents, je voudrais vous faire écouter une archive de Lino Ventura qui parlait de la façon dont sa mère parlait. Je vous propose de l'écouter.
Je suis arrivé, j'étais seul avec ma mère, n'est-ce pas?
Elle avait créé une espèce de jargon à elle, moitié parmesan, moitié italien, moitié français. C'était une espèce de sabi, yogourt, moldovalak, que personne ne comprenait. Et il y avait une chose très étrange, mon chien la comprenait.
Voilà. Il n'y avait pas de chien, je crois.
Non,
là,
il
n'y
avait
chez
pas
vous.
De chien, mais ce que j'entends là est très touchant, je ne connaissais pas cette archive, mais c'est exactement ça.
Ouais.
C'est vraiment, moi je dis un sabir, mais c'est vrai. Et c'est matiné de plusieurs choses, hein, effectivement, l'intégration de quelques mots français, mais matiné d'italien, avec surtout du dialecte, quoi,
oui.
Parce que mes parents venaient d'une région entre Rome et Naples, la Ciociaria, et celle des films de De Sica,
oui,
etc.
Oui.
Et donc, voilà, on parlait plutôt ce langage-là à la maison. Ce qui fait que même si je suis né en France et même si j'ai parlé spontanément le français à la maternelle, je n'avais pas les mécanismes, l'inconscient du français. Je n'avais pas les expressions familières, etc. Donc, je pouvais pas leur demander non plus, quand on dit ça en français, est-ce que ça veut dire ça? Donc voilà, ça a été... Bon, mais en même temps, voilà, c'est ce que je dis aussi dans le bouquin, c'est qu'on a été très très bien entourés par la communale, a fait un boulot inouï avec nous. Et
comment ils s'appellent, les Vallons?
Les voisins. Il y a eu des voisins qui ont immédiatement été très très accueillants, ils ont senti que mes parents étaient démunis, ils étaient voilà, donc ils sont allés à l'épicerie, ils sont allés à l'école, ils sont occupés de démarches administratives. Et puis voilà.
Et vous écrivez à propos de ces voisins, je trouve qu'ils sont importants parce que vous dites au fond, quand il y a des débats et que j'entends dire que la France est raciste, je pense à eux. Ah bah, et il y a toujours une petite larme de reconnaissance chez les Benacquista quand on parle d'eux.
Voilà, on est arrivés, ils sont occupés de nous. Et comme à l'école aussi. C'est-à-dire voilà, ça a été. Et puis ils ont fait preuve de patience, quoi. Je veux dire, en tout cas, ça s'est bien passé. C'est au contraire mes parents qui ont eu plus de mal parce que c'était mon père voulait partir, ma mère non, et ce conflit qu'ils avaient déjà là-bas, ils l'ont gardé en France.
Alors l'école, il y a quand même quelque chose d'ambivalent. L'école, elle a été beaucoup source de souffrance, me semble-t-il, pour vous, et notamment les livres obligatoires à lire. Vous parlez d'un livre de nouvelles de Balzac, auquel vous vous heurtez.
Oui.
Impossible de le lire, impossible.
Oui, c'est comme c'était des citadelles, c'était des monuments. Je me disais, là, je suis dans quelque chose de grave.
Ouais.
Et j'ai voulu décrire, mais par-delà moi, j'ai voulu décrire le désarroi d'un enfant qui s'attaque à un classique. Et qui, d'une certaine manière, n'y est pas préparé. Ouais. Et comment ses yeux vont accrocher la ligne? Il va essayer de comprendre cette ligne-là, la suivante, telle phrase. Et à un moment donné, ce sont des stries dans une page. Et il ne comprend pas pourquoi il perd le fil de sa concentration. Et il se dit, mais je suis plus idiot que les autres, puisque d'autres me parlent de ce bouquin et se sont régalés avec. Et donc, voilà. Et qu'on soit natif, pas natif, qu'on vienne de n'importe où et qu'on ait n'importe quelle culture, on peut être tout à fait inhibé par un monument national.
Et le bouquin qui est là, J-7 avant le cours, J-5, J-3, et on n'y arrive toujours pas.
On n'y arrive toujours pas, on procrastine, et j'essaie, là, encore une fois, de décrire un mécanisme. Pourquoi on vit cette culpabilité, on la subit en se disant, voilà, mais qu'est-ce que je vais faire le jour où je serai interrogé, ce matin-là, on est tous censés l'avoir lu, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, quoi. Donc, mais en même temps, par-delà ça, c'est aussi la conquête du langage.
Bien sûr.
Du beau langage, en plus, hein. Parce
Cyrano.
Que, voilà, Cyrano, c'est un éblouissement.
Bon, Cyrano, ça fait partie. Cyrano, Ray Bradbury et Andromaque. Ça fait partie des livres qui vous ont en partie débloqué.
Non, c'est-à-dire que c'est Cyrano qui a débloqué Andromaque, si je peux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que la prof est la seule à comprendre ce qui se passe dans Andromaque.
Mais Andromaque, il y avait de l'envie, je trouve, par rapport aux autres. Ouais.
Ah oui,
ouais.
Mais il y a, de toute façon, il y a toujours de l'envie. Ouais. On se dit, voilà, ce sont des panthéons. Et puis, à un moment donné, par effraction presque, il y a Cyrano qui s'introduit dans la classe, et à ce moment-là, le bretteur devient l'éloquence, et puis on se dit, ah oui, tiens, c'est ça, le style.
Il est le style, le respect, il l'obtient par le verbe. On continue cette conversation, mais je voudrais y associer les auditeurs, et Marisa qui nous a appelé. Bonjour Marisa.
Bonjour.
Vous êtes, je lis ma petite fiche, issue de l'immigration sarde, arrivée en France dans les années 60.
Tout à fait. Alors, je viens d'écouter le début de l'émission, ouais. Très très émouvant pour toute personne qui a été confrontée à cette immigration. Alors moi, l'immigration, je l'ai vécue. Je suis partie à l'âge de 6 ans, donc j'ai un souvenir très très vif encore de cette déchirure, de cette séparation. Et ce que j'entends de ce que dit Monsieur Benacquista, à la fois me touche beaucoup et me rappelle plein de souvenirs, parce que son expérience est l'expérience universelle de tous les enfants d'immigration. Moi-même, dès l'âge de 7 ans, j'ai, en tant qu'aînée, puisque c'était mon rôle, j'ai dû être l'écrivain public à la maison. C'est moi qui écrivais les lettres pour la famille en Italie. C'est moi qui remplissais les courriers de la sécurité sociale. Après, je serai plus nuancée sur les questions qui touchent aux solidarités. Moi, j'ai le souvenir, alors était-ce une spécificité de cette immigration du sud de l'Italie ? Oui. J'ai été très, très confrontée à l'époque à la fois au racisme français. Moi, j'ai eu des enseignants qui, effectivement, m'ont permis de réaliser ce qu'on appelle le miracle de l'intégration républicaine. Mais j'ai aussi le souvenir d'enseignants extrêmement racistes qui, justement, ne supportaient pas qu'une petite Italienne avec des parents analphabètes deviennent dès le CM1 la première de la classe et surtout la première en français. Et d'autre part, j'ai aussi vécu le racisme et le rejet de l'immigration italienne du Nord. Moi, je me suis mariée à 20 ans avec un fils de l'immigration du Frioul et son père, lorsqu'il a su que son fils était amoureux d'une petite sarde, mais il a traité cette relation comme aujourd'hui certains Français traiteraient la relation d'un jeune Français avec un noir ou une personne issue de l'immigration.
Merci. Merci Marisa pour ce témoignage. Tony Obenacquista, un mot de
réponse. Enfin, en tout cas, sur sur le Nord-Sud en Italie, c'est quelque chose qui a toujours existé. On voit. Et là, le film m'échappe, mais on voit ça très très bien dans Rocco et ses frères, par exemple. Voilà, ils viennent du sud, ils s'installent à Milan, et là, on voit très très bien qu'il y a ce conflit. Et de toute façon, en Italie, on est toujours au sud de quelqu'un. Enfin, on est plutôt toujours au nord de quelqu'un. On dit, mais moi, je suis au nord. C'est-à-dire qu'un Romain va dire, je suis au nord
du Napolitain,
etc., etc. Ouais. Donc ça existe et c'est italien. Maintenant, quant à moi, j'ai plutôt connu la solidarité. Il y avait des associations, il y en a encore aujourd'hui. Il y a des festivals de cinéma en France qui sont faits par des Italiens et descendants d'Italiens, je n'ai pas ce souvenir-là. Maintenant, je n'ai guère raconté que mon histoire.
La question des prénoms. Votre sœur Yolanda, qui choisit Yolande, qui le Francis, qui regrette parce que c'est le prénom de Dalida et que ça serait quand même super d'avoir le prénom de Dalida. Votre frère Giovanni qui se fait appeler Jean, et chez qui on mange le dimanche du fromage et des plats français.
Oui.
Et vous, Tonino, alors vous avez cette expression, à chaque fois qu'on m'appelle, j'ai l'impression qu'on commande des spaghettis à l'évangolais.
Oui, mais ça c'est parce que je trouve que déjà Benacquista, c'est un nom qui est plutôt chantonnant, comme ça, avec plein de syllabes, avec plein de voyelles. Il rajoutait Tonino, c'est vrai que ça donne quelque chose effectivement d'assez musical, mais qui, d'une certaine manière, encourage à une espèce de familiarité qui est bienveillante, j'entends. Ma sœur m'a dit, mais non, t'aurais dû t'appeler Daniel, ça aurait été, d'abord c'était le prénom à la mode à l'époque, et elle voulait absolument qu'on l'appelle Yolande, bon, Clara s'est appelée Clara. Et voilà. Et bon, c'est pas du tout un prénom qui m'ennuie. Hein, mais je me suis dit déjà comment retenir un truc aussi long et aussi voilà.
Et ce qui est étonnant, c'est que chaque membre de la famille a fait son choix au fond.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont voté démocratiquement. Et puis à un moment donné, ma mère a dit non, il s'appellera Tonino. On ne sait pas pourquoi. Et puis voilà. Et maintenant, voilà, je suis assez content.
Il y a le courage de ceux qui partent et il y a le courage de ceux qui restent. Et qui sont les plus courageux?
On n'a pas de réponse, mais on parle jamais de ceux qui restent, en fait. Ouais. Effectivement, moi, quand j'allais donc en vacances en Italie, mon père ne faisait que ça. Il ne faisait que se comparer à ceux qui étaient restés.
Sans parler des ongles partis en Amérique et qu'on réussit.
Alors, ceux qui sont partis en Italie, mais ceux qui restent. Et mais si j'étais resté, quel aurait été mon devenir? Alors, c'est pour ça que je m'amuse, parce que j'écris des romans. Je me suis amusé à faire un peu du chrony à la fin en me disant, et s'ils étaient restés, et s'ils étaient partis aux États-Unis, mais heureusement qu'on a l'imagination et le roman et le romanesque pour imaginer ce que ça aurait pu être.
Et la fin, elle raconte aussi que vous êtes rattrapé par les démons de votre père et votre mère.
Oui.
Et cette phrase, page 118, étrange souci que de chercher en soi le sentiment d'appartenance au pays où l'on est né, puisque vous êtes né en France. Ça passe par un autre épisode, je voulais raconter plus vite, mais on est parti dans la discussion. 98, là vous avez une petite quarantaine d'années, Coupe du Monde, France-Italie.
Oui.
Le Corriere della Sera vous demande un compte-rendu.
Oui.
Vous vous mettez chez un copain qui tient un kiosque de presse près de Matignon.
Oui.
Il y a tous les gendarmes.
Oui.
En garde, qui abandonne le Premier ministre, qui vient de regarder le foot. Et alors, vous êtes pour qui?
Eh bien, justement, c'est-à-dire, je me questionne sur l'idée de ferveur. Mm. Je me dis que voilà, il y a pas plus de ferveur que dans le sport. Il y en a beaucoup plus que dans la culture, dans le cinéma, dans la cuisine. C'est dans le sport. Le sport cristallise un truc une espèce de vibration intérieure qui est inégalable. Et en l'occurrence, voilà, le Corriere della Sera, je me dis, je prends un bloc-notes et je me dis, tiens, je suis pour quelle équipe là en ce moment? Et en fait, tous les gendarmes qui assurent la sécurité de Matignon s'entassent dans notre boutique et ils ont tous un fusil et ils sont tous, et il y a 10 types qui sont en train de hurler au moment des tirs au but. Et je les regarde et je me dis, non seulement je suis en danger, là, mais en même temps je me dis, c'est ça la ferveur. Là, voilà, la ferveur, et la mienne, elle est anecdotique à côté.
Vous n'êtes pas allé en Italie depuis 40 ans, écrivez-vous.
Si, j'y suis retourné quand j'ai été couchettiste au wagon-lit, c'est-à-dire j'y allais beaucoup, oui, mais c'était il y a 30 ans, oui, c'est ça. Ouais. Non, mais j'y suis pas retourné. Je suis retourné à Rome il y a 2 ou 3 ans, la ville avait beaucoup changé, en bien d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, je j'y vais peu, ouais. Enfin, je me sens pas appelé là-bas, je me sens pas, mes frères et sœurs, oui, beaucoup plus que moi.
Porca Miseria, c'est donc publié chez Gallimard. Vous aurez compris que à la fois on rit et il y a beaucoup de passages très émouvants. Je voulais finir sur ce message de Jean-Philippe. On n'a pas le temps de prendre au téléphone. Votre roman Les Morsures de l'Aube a été un choc pour moi, dit-il. Ça prouve que Tonino Benacquista a compris ce monde de la nuit et de l'immigration. Merci à vous, Tonino Benacquista, d'être venu.
Merci beaucoup à vous.
Dans les studios de France Inter. 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Quand un grand biographe vide ses carnets de notes.
Les secrets de la fabrique des présidents selon Éric Roussel.
Avant cela, nous irons en feuilleton du côté de Cholet, les déserts médicaux. Nous continuons notre réflexion après notre déplacement hier à Saint-Dié. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
C'est avec un grand musicien que vous parlez d'une chanson aujourd'hui, le trompettiste Ibrahim Malouf. Il sera demain soir en concert au théâtre municipal de Lens, le Colisée.
Et il vient par ailleurs de publier un nouveau disque et un livre. Le livre, c'est Petite philosophie de l'improvisation. Quant au disque, c'est First Noël, un album dans lequel il réinterprète 25 grands classiques des fêtes de Noël. Il a d'ailleurs choisi de me parler d'une chanson qui, à ses yeux, sera un jour considérée comme un classique de la musique. C'est un titre de l'américaine Alicia Keys.
Moi, je suis un grand fan d'Alicia Keys. Et si je suis fan, c'est pas par hasard. C'est parce que lorsqu'elle est arrivée et qu'on l'a découverte au tout début des années 2000, ça fait un effet de bombe chez tout le monde parce que c'est à la fois une artiste assez fragile, très personnelle dans son travail. Et en même temps, sa musique qui est très fine, c'est pas de la grosse pop de radio, c'est une musique très bien travaillée, était très grand public aussi. Inspiré à la fois de gospel, de jazz, de pop, de chansons américaines, etc. Et ce mélange-là, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Et cette chanson-là en particulier, c'est sur cette chanson que je l'ai découverte, Alicia Keys. Et à cette époque-là, moi j'avais 20 ans, 22 ans, j'étais au Conservatoire de Paris, j'étais encore en train de me chercher, et d'un seul coup je découvre cette artiste américaine qui vient et qui prend mon cœur et qui le bascule de gauche à droite en me disant, tu vois, tu peux faire de la très très bonne musique et en même temps de la musique populaire, tout en restant très personnel et très fidèle à qui tu es.
C'est vrai que c'est bien, cette chanson, Frédéric, a pour titre If I Ain't Got You.
Traduction, si tu n'es pas à moi, Bruno.
Oui.
C'est une chanson d'amour parue en 2003 sur le deuxième album studio d'Alicia Keys. Une chanteuse qui a donc beaucoup compté et compte encore beaucoup pour Ibrahim Malouf.
Je pense à une autre artiste, Norah Jones. Pareil, qu'on l'a découverte, on s'est dit, mais c'est quoi cette voix à la fois très touchante, très grand public, mais qui chante des choses hyper travaillées. Rien à voir avec la pop qui passait en radio à l'époque et encore moins celle qui passe en radio aujourd'hui. Ce sont des artistes qui me touchent beaucoup, pas simplement la musique. Vous savez, moi je dis souvent que les musiques qui nous touchent, c'est parce qu'on les écoute à un moment précis de notre vie. Et quand on les réécoute plus tard, en fait on réécoute un souvenir, plus qu'une musique en soi.
If I ain't gotta do, baby.
exemple, là, c'est un exemple, mais si j'aime en particulier ces artistes-là, c'est pas simplement parce qu'elles sont talentueuses et parce que les chansons sont géniales, parce que c'est aussi vrai, mais je pense parce que je les ai écoutées à cette époque-là. Norah Jones, Alicia Keys, etc. sont des artistes new-yorkaises, en l'occurrence, qui ont émergé à peu près au moment des attentats du 11 septembre. Et si on les a autant écoutées, c'est parce qu'elles nous faisaient du bien. À cette époque-là, on avait tous besoin d'une énorme thérapie d'amour. Et ben, j'ai vécu ça un peu de cette manière-là, en fait, finalement.
Et aujourd'hui, quand vous l'entendez, cette chanson-là en particulier, est-ce qu'elle continue à vous donner de l'amour ?
Mais oui.
If I Ain't Got You, Alicia Keys, c'était donc Frédéric, le choix du trompettiste Ibrahim Malouf.
Qui sera en concert demain soir au Colisée, à Lens, précision, c'est complet. Mais vous pouvez toujours vous procurer son dernier disque, First Noël, et sa petite philosophie de l'improvisation, c'est publié aux éditions des Équateurs.
Bon week-end Frédéric.
À lundi.
Après notre émission consacrée à l'hôpital hier à Saint-Dié, dernier épisode du feuilleton sur le désert médical qui avance dans beaucoup de régions de France, notamment à Cholet, où s'est rendue Sarah Guibaudeau. Alors nous avons déjà fait depuis lundi connaissance du docteur Corinne Chaudon, généraliste à la retraite. Elle a repris du service à temps partiel dans ce service médical de proximité. Elle mise sur la formation des jeunes pour les attirer dans des villes petites ou moyennes. Et l'interne, qu'est-ce qu'elle en pense ? Est-ce qu'elle se voit faire de longues journées de travail dans son cabinet comme ses grands anciens ? Reportage donc au micro de Sarah Guibaudeau.
Bonjour, je m'appelle Violaine, je suis l'interne du docteur Chaudon.
D'accord.
Vous venez pour quelle raison ?
J'ai fait une prise de sang et vous m'avez appelé pour me donner un rendez-vous.
Dans la dernière prise de sang, vous aviez un manque de fer.
C'est ça.
Vous avez des règles abondantes ?
Non.
Non ? Vous mangez de la viande ?
Oui.
Quand vous avez fait votre prise de sang, vous n'aviez pas de soucis dentaires, vous n'étiez pas enrhumé.
Si, j'avais un problème dentaire.
Voilà. Vous avez retrouvé un dentiste ?
Non, je suis partie à l'urgence dentaire de Nantes.
Et vous n'êtes pas essoufflée ?
Non, mais je suis fatiguée. Bonne soirée. Merci,
à bientôt. Je pense que c'est d'avoir des internes, c'est une richesse importante pour la suite. Il y a beaucoup d'échanges, c'est pas le médecin avec l'interne, c'est ensemble. Il y a un échange. Violaine a été à l'hôpital, nous il y a longtemps qu'on n'a pas été à l'hôpital. C'est vraiment un échange et c'est ça qui est riche. Et puis les patients, ils sont pas opposés à ça ici. Ceux qui comprennent le plus, c'est les artisans et les enseignants. Parce que les artisans, ils ont des apprentis et les enseignants, ils ont aussi des stagiaires.
Je m'appelle Violaine Descamps, je suis interne de premier semestre donc en médecine générale à la fac d'Angers. C'est ma 7e année. J'étais à la fac de Versailles-Saint-Quentin, donc dans l'ouest parisien. Et donc moi j'ai choisi la médecine générale à Angers.
Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la médecine générale et pourquoi Angers ?
C'est personnel, hein, tout le monde choisit ce qu'il veut. Moi j'aime beaucoup la médecine générale, le suivi des patients. Et Angers, je ne connaissais pas du tout. J'avais envie de partir de la région parisienne. J'ai mon compagnon qui est aussi interne en médecine générale. Donc on devait aussi choisir à deux. C'était le bon compromis, une ville de moyenne taille.
Est-ce que vous, après votre internat, vous pourriez envisager de vous installer comme ici à Cholet ou est-ce que vous auriez envie de retourner dans une plus grande ville ?
Je ne me vois pas forcément m'installer dans Angers, par exemple, ou dans Paris. Ou... Après Cholet, c'est que le début, hein, mais je ne pense pas. Mais ça, c'est personnel, c'est juste que la ville m'attire moins.
Vous seriez contre le fait qu'on vous oblige à exercer vos premières années dans un désert médical, par exemple ?
Non, moi, je ne suis pas pour. Je trouve qu'on fait quand même beaucoup d'années d'études pour justement être un peu libre de son installation. Je trouve ça dommage de devoir nous forcer, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes à s'installer. Gérer un cabinet, c'est beaucoup de contraintes. Aller dans un endroit où il y a des milliers de patients qui n'ont pas été vus depuis je ne sais pas combien de temps, ça ne donne pas forcément très envie, même si bien sûr ça les aiderait beaucoup, mais c'est une charge de travail aussi énorme. Plus tard, j'ai pas envie de travailler 6 jours sur 7 en finissant à 21h tous les soirs. Il faut pouvoir avoir une vie à côté, sinon ça vaut pas forcément le coup.
Docteur Chaudon, vous voyez continuer à exercer la médecine jusqu'à quel âge ?
Je ne sais pas.
Vous avez quel âge aujourd'hui ?
68 ans. De toute façon, c'est du temps partiel. Hein, donc, s'il y a des jeunes qui veulent s'installer, nous, on se retirera. Hein, c'est pas... Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que de se sentir inutile à la retraite, c'est pas bien non plus. On verra. Si ça dépend de, déjà de notre forme physique et intellectuelle aussi.
Tu demandes à
et le feuilleton, oui, je vais demander, promis, Jean Lebrun. Le feuilleton
c'est les coulisses.
Est à réécouter sur franceinter.fr. Bah tiens, Loïc Frapsos, tu peux me dire, s'il te plaît, à quelle heure voilà. Jean Lebrun doit s'arrêter.
Voilà.
58:45, c'est noté, c'est
vous
tout de suite.
France Inter. Le 13-14.
Et il est question d'Éric Roussel dans le vif de l'histoire aujourd'hui, cher Jean. Mendès France, Jean Monnet en tête de rayon, quatre présidents de la République, autant de biographies réalisées par Éric Roussel. Et vous nous proposez maintenant de truffer ses livres. Truffer.
Oui, truffer un volume, c'est y glisser toutes sortes de papiers, de compléments. C'est Éric Roussel lui-même qui nous offre ses gâteries en publiant ses carnets d'un biographe. Il nous permet d'entrer dans les coulisses de sa fabrique de l'histoire. À quelle heure? J'ai pas bien noté, je dois m'arrêter.
58:45.
Et d'abord, il nous laisse entrevoir comment il est devenu biographe. Gamin, il a détesté que son père l'oblige à naviguer sur son voilier. Il se réfugiait au fond de la cale, il recevait des paquets de mer, il aurait préféré rester à quai. En imaginant toutefois le parcours de ceux qui partaient au loin. Parce que un biographe, ça délègue à d'autres sa part d'aventure. C'est aussi en apparence du moins un homme consciencieux qui remplit son travail de vérification avec application. Mais ces personnages, pour avoir réussi une course politique, ils ont nécessairement été des transgressifs et Roussel les aborde comme s'ils étaient des héros de roman. Alors, il faut l'entendre raconter comment il se rend au premier rendez-vous, comment il monte les étages, frappe à la porte, ainsi chez François Mitterrand, rue de Bièvre. Un chien, peu engageant, Nil peut-être, monte la garde de l'antichambre. Une dizaine de solliciteurs y attendent déjà. Il n'y a pas de siège, il n'y a d'ailleurs aucun meuble, alors ils se tiennent debout ou assis sur la moquette. De temps en temps, Mitterrand passe une tête et introduit un visiteur dans son bureau où figure en bonne place une photo de Mauriac dédicacée. Et Roussel s'entend dire « C'est tout de même pas moi qui vais écrire votre livre ». C'est la bonne remarque que fait Mitterrand. Qui conduit la biographie? Le personnage? L'auteur?
En tout cas, la première fois entre Roussel et Chirac, ça ne semble pas s'être bien passé.
Non, parce que Chirac n'a pas du tout envie de répondre aux questions. Sinon, par des formules automatiques, il se lève sans cesse pour jeter des bûches dans la cheminée de son immense bureau de l'hôtel de ville. Roussel est pris de tournis, comprend seulement que les fidèles de Gaulle insupportent Chirac. Et lui, c'est l'entourage premier de Chirac qu'il déteste, à commencer par Marie-France Garraud, l'Amazone du nationalisme. Chirac, pour Roussel, c'est un chanteur d'opérette qui répète « Marchons, marchons !» et reste immobile. Et il dénonce l'inaction complète à laquelle, je cite, l'a condamné la dégradation continue de son état de santé pendant près de 15 ans. Alors la phrase est énigmatique.
Il est 13h57, venons-en aux autres présidents, Jean.
Alors Roussel était un militant gaulliste dans son jeune âge. Avec la maturité, il a mieux saisi le cynisme avec lequel de Gaulle conduisait parfois les hommes. Le général préférait souvent les ouvriers de la 11e heure plutôt que les compagnons des premiers jours de 40. Il avait davantage barre sur eux. Mais le biographe, il est bien content de se mettre sous la dent des serviteurs amers qui, regrettant l'ingratitude du maître, en viennent plus facilement à la confidence. Bref, de Gaulle n'était pas un saint.
Et Mitterrand ?
On va faire vite, hein. On va laisser à François Hollande le soin de conclure. Okay. Sa présidence reste une référence, sa vision politique un exemple et sa personne un mystère.
Bon, de Gaulle n'est pas un saint, Mitterrand est un mystère, Giscard un miracle ?
Peut-être, ne nous faites tout de même pas dire qu'il est de conception immaculée. Giscard, au soir de sa vie, a eu avec Roussel de longues conversations confiantes. « Je suis trop grand et j'ai pour les Français un nom trop long », lui a-t-il dit. C'est bien en effet un peu un miracle qu'un homme aussi décalé par ses origines, son style, ait une fois arraché une courte majorité à la présidentielle. Le dernier moment que Roussel a passé avec Giscard, c'était en septembre 2019 à Bruxelles. Le vieux président avait gardé son alacrité intellectuelle, mais une fois arrivé Gare du Nord, il devait s'appuyer sur son officier de sécurité pour marcher lentement, difficilement, sur le quai. Alors, le cœur du biographe s'est serré et il a titré ses carnets « C'était le monde d'avant ».
Carnets qui sont publiés aux éditions de l'Observatoire. Vous avez 15 secondes d'avance, cher ami. Ce qui
ça
nous
permet
laisse
de
le
dire...
temps. Intelligence service demain. Ah mais tout était calculé.
Rousseau homme politique, enfin un grand concepteur, le contrat social et le discours sur l'origine de l'inégalité.
C'est à quelle heure déjà Intelligence Service ?
18h et des poussières.
18h et des poussières.
L'horaire est émouvant, malléable.
Le samedi, évidemment, à réécouter en podcast. Merci beaucoup, Jean Lebrun.